comprendre l'opposition violente qu'il y a eu il y a quelques siècles entre le début du mouvement du racidisme et le Bonneville.
Il y a plus de réponses à ça. Il y a deux sujets qu'il faut traiter là-dedans. Le premier est, comment se fait-il que deux mouvements s'opposent, si les deux sont dans la vérité, on travaille pour le même boss. Ça, je vais le traiter après. Ta question, elle est spécifique pour deux mouvements, Chassidut, ce qu'on appelle les Mitnagdim. Les Mitnagdim, c'est ce qu'on appelait ceux qui étaient opposés. On appelle aujourd'hui les Litaïm, les Lituaniens. Mais le problème est que la Chassidut, elle est apparue peu après le faux Messie Shabtai Tzvi. Il y a deux personnes dans la Torah, à propos desquelles on peut dire « il marche bon ». C'est ce qu'on appelle Otto Haïch, cet homme, n'aime pas dire son nom, mais c'est Jésus, et Shabtai Tzvi, deux juifs. Il y a des goïms qui ont fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, mais lorsqu'un goï fait du mal au peuple juif, il n'est qu'un envoyé de Dieu. Rien ne peut arriver si Dieu n'a pas voulu. Alors tu peux me demander, alors dans ce cas-là, tous les Hitler, Staline, assassins de Ilan Halimi, ce sont des anges, des envoyés de Dieu. Réponse non. Oui et non. Ça veut dire, pour moi, ce sont des envoyés de Dieu. Et je n'ai pas à leur en vouloir, ce n'est pas mon affaire, c'est pas... Eux seront jugés. Dieu, il a une case. Il a besoin maintenant de tuer 6 millions de juifs. Il cherche qui je mets dans la case. Il met M. Duchnok. Duchnok, c'est un grand antisémite, mais il n'a pas quand même le cran. Il a une pulsion de ce type-là, pour ça que Dieu l'a mis dans cette situation. Il a un choix. Ou tu vas tuer ou tu ne vas pas tuer. Et pour finir, il décide de ne pas tuer. Dieu prend un autre, Adolphe. Il le met dans cette case. Adolphe décide, moi j'y vais. Maintenant, Adolphe avait le choix, oui ou non. Pour le fait qu'il a décidé de faire le mal, il sera jugé. Il est responsable. Mais Dieu l'a utilisé, bien que ça ne le déresponsabilise pas à Adolphe, mais Dieu l'a utilisé au fin de Dieu qui voulait que, pour la raison X, Y, Z, Dieu voulait que 6 millions de juifs disparaissent.
Il dit que même la pensée, Hachem va juger pour la pensée des goyim, s'ils ont pensé à faire du mal, ouais. Il va les prendre.
Ouais. Donc il est responsable. Un goy qui fait une action contre un juif, il est responsable. Mais il ne peut rien faire si Dieu n'a pas donné un OK. Non seulement que Dieu a donné un OK, mais Dieu a voulu que ça se fasse. Alors comment c'est que... Alors si Dieu veut, le goy n'est pas responsable. Non. Dieu envoie le goy dans une situation, vas-y. Je te mets maintenant en situation, toi tu as un choix de faire du mal aux juifs ou ne pas faire. Tu décides. Si tu fais le mal, je te punirai pour cela. Mais moi, ça m'a arrangé. Moi, ça m'a arrangé. C'est comme si, je ne sais pas, moi... Moi, je voulais maintenant... J'ai quelqu'un qui me doit de l'argent. D'accord? Il me doit de l'argent. Bien, on va dire, je veux me venger. D'accord? Quelqu'un, il m'a fait un sale coup. Maintenant... J'ai un ami, c'est un grand voleur, un pickpocket. Et lui, quand il voit, c'est un... Comment on appelle ça? Quelqu'un qui est un kleptomane. D'accord? C'est très, très dur pour lui de ne pas voler quand il voit... Et je vois que justement, la voiture de ce type-là dont je me vengeais, la fenêtre est ouverte. On peut tac, rentrer, machin, tout ça. Je dis au type, écoute, la voiture de machin, sa voiture, la fenêtre est ouverte. Lui, il entend ça. Il a un choix. Est-ce qu'il vole ou il ne vole pas? Il vole. Quelque part, il m'a arrangé. Moi, quand je lui ai dit ça, quelque part, je l'ai aidé à faire le péché de voler. Et quand il a volé, je suis très content qu'il ait fait cela. Mais est-ce que lui, ça le déresponsabilise? Absolument pas. C'est un voleur. Il sera jugé pour cela. Oui. Dieu, pour la raison... Dieu ne veut pas se venger. Maintenant, c'est un exemple que j'ai pris. Dieu, il veut maintenant qu'il y ait 6 millions de juifs qui disparaissent. Ok ? Pour raison X, Y, Z que je ne sais pas. Il faut qu'ils disparaissent. Alors il y a deux solutions. Ou il amène un tsunami sur tous les juifs d'Europe, ce qui n'est pas tellement facile parce qu'on veut tuer lui et pas lui. Ou il prend un sale antisémite, il est en position de pouvoir, et il a un pouvoir très grand à arriver, on lui donne aussi un don de galvaniser les foules et de les convaincre. Et lui maintenant, il a un choix. Ou bien il va utiliser ça pour faire du bien, ou pour le mal. Il décide de faire le mal. Dieu sait très bien, mais ça l'arrange Dieu. Maintenant, lui, ce type-là qui avait le choix de faire le bien ou le mal, il sera responsable. Bien sûr qu'il est responsable, il va payer pour ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par rapport aux juifs, quand vient ce type-là qui est envoyé de Dieu, c'est un ange. On n'a pas à lui en vouloir, parce que c'est rien, personne ne peut faire du mal à un juif si Dieu n'a pas voulu. Impossible.
Et pourtant, on dit qu'un goy, il n'a pas de libre arbitre.
Qui a dit ça qu'il n'a pas de libre arbitre, un goy? Bien sûr qu'il a un libre arbitre, quelle question. Et cette loi noachide. Donc si Dieu ordonne de ne pas tuer, si Dieu ordonne de ne pas blasphémer, si Dieu ordonne cette loi noachide, donc c'est qu'il a un libre arbitre. On n'ordonne pas à quelqu'un quelque chose, il n'a pas un libre arbitre de le faire ou pas.
Okay, il a pas après, il a un libre arbitre comme nous.
Je t'ai répondu. Il y a deux personnes dans toute l'histoire qu'on appelle les marchemins. Les marchemins, que non, son nom soit effacé. Parce que eux, ce sont des gens qui ont fait du mal, vraiment. Vraiment du mal. C'est Otto Haïch, l'acrobate, et Shabtai Tse, le faux messie, qui vivait il y a 400-500 ans. C'est un type qui était un grand racham, un grand sage d'Israël, qui étudiait beaucoup de Kabbalah. Il habitait ici à Gaza. Et tout à coup, c'est une lubie qui arrive à beaucoup de gens, il faut savoir. C'est une chose qui est assez fréquente dans l'histoire juive. On a des dizaines de cas, des dizaines qu'on connaît, il y en a plus encore, de gens qui se sont pris pour le Messie. Et avec plus ou moins de chance, ils ont réussi à convaincre les foules. Maïmonide raconte que dans son enfance, il y avait un comme ça en Espagne. Et il a convaincu les gens. Il faisait des miracles. Et les gens ont commencé à vendre leur maison, tout ça. Ils disaient, à Pessah, on est tous en Israël. Ils ont vendu leur maison, ils ont eu tout leur bien, à rien. Ils ont bradé à 10%. Et Pessah est venu, à rien du tout. Tout est Gerrit Eman, il y a une lettre.
Mais aussi, c'est peut-être les envoyés de Dieu. C'est que Dieu a voulu, quelque part.
Tu parles de Jésus et de Shabtai Tzvi.
Tous les gens qui se prennent pour des messies.
Oui. Mais eux, lorsqu'un juif fait du mal, alors il amène le mal dans le monde. Si Dieu maintenant veut tuer 6 millions de juifs, pourquoi Dieu veut ça? Alors c'est très dur de répondre, mais c'est certain que...
Il ne voulait pas que tuer, il voulait aussi montrer la cruauté, il voulait montrer quelque chose.
Laisse-moi expliquer. Lorsque un malheur arrive au peuple d'Israël, pourquoi? Comment ça se fait? C'est marqué, la Gemara, elle dit que celui qui flanque une gifle à un juif, c'est comme s'il flanque une gifle à la shrina, à la présence divine. Comment Dieu laisse faire une chose pareille? Réponse, parce que les juifs eux-mêmes ont donné de la puissance au côté du mal. On reçoit une énergie divine. Lorsqu'on fait, ce qu'on appelle un avon. Avon vient du mot en hébreu, la avet. Avet signifie tordre. C'est que le flux vient vers toi pour faire du bien, tu le tords vers le mal. Tu donnes de l'énergie divine au mal. Le mal, c'est la mort. Il n'existe pas. La mort, elle est morte. Morte. Quand tu prends de l'énergie et tu la fais tordre vers la mort, tu donnes l'énergie vitale à la mort. La mort commence à vivre. Ça s'appelle le mal. Et le mal, il y a deux façons maintenant de l'éliminer. Ou bien tu lui reprends cette énergie de vie que tu lui as donnée, ça s'appelle ça tshuva. Tashuv, hey, hey, c'est la dernière lettre du nom de Dieu. C'est la force divine, qui est, c'est la présence divine, la shrina. Cette force, tu la prends, ton rapport, tu l'as donnée dans le mal. Quand tu fais tshuva, tashuv, hey, tshuva, c'est tashuv, reviens, hey, tu fais revenir cette lettre de force divine, tu la prends, et tu fais remonter. Et la mort, sans vie, elle meurt, elle disparaît. Si tu ne fais pas ça, elle a une énergie de mal. Le mal, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire du mal. La mort, il veut faire la mort. Il vient, il tue. Il vient, il fait du mal. Toutes les sortes de mal possibles, imaginables, toutes leurs sources proviennent du mal. Maintenant, il est impossible qu'il y ait une force au mal sans que nous, on ait donné la force au mal. Ça commence avec le premier homme qui a péché, qui a donné beaucoup de force au mal, et ça continue avec toutes les générations, etc. Toute l'histoire que nous raconte la Torah du déluge, la tour de Babel, de Sodome et Gomorre, c'est qui? Ce sont les âmes juives à l'origine. Nous, âmes Israël, c'est nous qui sommes, c'est nous, nous sommes les réincarnations de ces générations-là. Pourquoi est-ce qu'on va 400 ans en Égypte? Qu'est-ce qu'on a fait? 400 ans d'esclavage en Égypte? Qu'est-ce qu'on a fait? T'as une grande facture de destruction. On a réparé, on est sorti, on est revenu à l'état antécédent du péché originel lorsqu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï. 40 jours plus tard, on fait le veau d'or, on retombe de nouveau. Et depuis, on est en galère. Parce que très bientôt, Bézat Hachem, on aura complètement réparé avec la grande chouva qui aura Bézat Hachem. C'est-à-dire qui aura Bézat Hachem. Maintenant, quand le juif donc, fait une action mauvaise, très grande, alors lui, en fait, il actionne par ricochet que les goïms vont nous faire du mal. Donc un homme comme Jésus, un homme comme Shabtatsi, qui sont des faux prophètes, des faux messies, et qui vont faire aller des foules de juifs dans l'erreur, dans le mensonge, ils donnent une énergie au mal terrible. Un point tel que ce sont les seules deux personnes dans toute l'histoire juive qu'on appelle Imarchman, que leur nom soit effacé. Donc on parle beaucoup d'eux. Shabtatsi, comme je commence à expliquer, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il s'est pris pour le messie, et il a commencé à faire un grand mouvement. Et le peuple juif, ça y est, tout le monde y croyait. C'était un grand kabbaliste. Il y a encore des textes que nous lisons. Il y a certaines synagogues qui ont commencé à enlever ça aujourd'hui, mais il y en a encore des textes comme ça, de Rosh Hashanah et de Kippour, qu'on lit quand on ouvre la Torah, qui sont écrits par Shabtatsi. Ce sont des trucs de Kabbalah. C'est un grand.
Mais on ne peut pas effacer un nom comme ça en disant que ce nom soit effacé. C'est Dieu qui peut effacer un nom.
Ah, c'est une malédiction. On dit que son nom soit effacé. C'était il y a environ 400 ans. Shabtatsi. Pour finir, il est allé en Turquie, et là-bas de nouveau, des grands émois, les foules, etc. Et le sultan commence à voir que chez les juifs, il y a du bruit. Alors, il fait convoquer Shabtatsi chez lui, au palais, à Istanbul, et lui dit, écoute, c'est bien simple, ou tu te convertis à l'islam, ou... Il s'est converti. Et avec lui, des centaines de juifs, si le Mashiach sont convertis à l'islam, c'est-à-dire que c'est la vérité, ils sont convertis à l'islam aussi. Et il continuait encore après. Il disait non, des explications kabbalistiques. Très souvent, quand le faux messie meurt, on invente des choses, d'accord? Les chrétiens ont inventé, il est mort. Comment on croit que c'est le messie? Il est mort. Bon, il va revenir. Il est parti vivant à la Pentecôte, il a quitté, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, il a quitté sa tombe, il est monté, d'accord? Et il reviendra un beau jour. Il faut bien trouver une explication, il est mort.
En fait, ma chère, ce qu'il aura de plus par rapport à tous les tzadikim, c'est juste qu'il sera tombé à l'époque où il a été décrété que...
C'est un peu plus compliqué. C'est que tu as une personne qui est un sadique, mais il n'est pas Mashiach. Il est potentiel Mashiach. L'âme du Mashiach, elle existe. Elle est dans un endroit dans le paradis qui s'appelle Kansipor. Et lorsque Dieu décide, elle descend, elle rentre dans cet homme-là. Avant, il n'est pas Mashiach. Il n'a rien. Il est un homme. C'est tout. Quand Dieu décide, l'âme descend et là, elle devient Mashiach. Donc tous les gens qui sont tzadikim grands dans la génération sont potentiellement, pas tous, mais beaucoup, auraient pu être le vrai Mashiach. Ce sont des Mashiach potentiels. On sait que Baba Meir aurait pu être Mashiach. On sait que d'autres.
Ça veut dire quoi? Ça commence qu'on peut comprendre ça.
C'est qui le on dit? Alors je vais dire un truc. Ce qu'on dit sur le Rav Kadouri, ce ne sont que des on dit qui dans 99,99 jusqu'à l'accord périodique, c'est faux. L'expérience a montré. Que je connais pas un rabbin dans les 30 dernières années sur lesquels on a raconté autant de on dit que le Rav Kadouri. Peut-être parce qu'il est sympa avec sa djellaba et sa grande barbe, d'accord? Alors, ça marche. Quand tu dis ça sur le Rav Eliashiv ou le Rav Steinman, on va dire, c'est le on dit, ça marche pas très bien. Mais sur le Rav Kadouri, je sais pas pourquoi ça marche, ça rentre bien. C'est du bidon.
Et vous dites que quelqu'un qui a fait...
Attends, j'aimerais reprendre maintenant le fil parce que je suis en train de m'égarer. Donc Shabtatsi, c'était un des faux messies qu'il y a eu. Il y en a eu presque toutes les générations, on a eu droit à des faux messies, Baruch Hashem. Lorsque la chassidoute a commencé, le Gaon de Vilna à l'époque était le grand sage, un des plus grands qu'on a eu les 3-4 générations, il a eu peur que ce soit de nouveau une déviation. Il faut comprendre que Shabtatsi n'a pas dévié, on peut dévier de deux façons, on peut dévier par le bas. T'es un rabbin, tu vois, je sais pas, t'as une envie d'une bonne femme, et hop, tu vas faire des péchés et tu quittes tout. Bah, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est pas le cas de ces gens-là. Shabtatsi, il a quitté par le haut. On a un exemple du même type. C'est marqué, le Talmud raconte que quatre sont rentrés dans le Pardès, dans le jardin secret de la Torah. Et un est rentré en paix et sorti en paix, Rabbi Akiva. Les autres, ils ont un s'est suicidé, l'autre est devenu faux, un a quitté la Torah. Parce que lorsqu'on rentre dans les choses qui sont très hautes, ça devient dangereux. On se rapproche de Dieu. C'est comme si tu es en navette spatiale. Quand je suis en trottinette, je dévie un peu, c'est pas grave. Et quand je suis en navette spatiale et je vais maintenant rentrer dans l'atmosphère, une petite déviation dans l'angle, ça ne pardonne pas. Lorsque tu es très haut, tu vas très vite, tu es une navette spatiale, tu n'es pas dans les sphères d'ici, tu es dans les sphères là-haut, une petite déviation, elle t'éjecte complètement.
Mais avec la relativité, ça déforme la perception. Donc une personne qui peut paraître fou, c'est peut-être... parce que nous, on n'est pas à ce niveau-là,
mais quelqu'un qui... c'est normal. Non, c'est ce que les fous ont dit à l'époque. Exactement ce que tu as dit. Peut-être, il sait ce qu'il fait, un homme si grand. Il s'est converti à l'islam. Certainement, il y a une grande mise à la danse et pour aller rechercher les étincelles qui sont cachées, même dans l'islam. Ses élèves, à lui, ils faisaient de l'adultère avec les tefilines. Mettez les tefilines, c'est de l'adultère. Pour aller chercher les nitsotsot. Pas par envie de la bonne femme. Tu peux faire sans les tefilines si tu as envie. Pourquoi avec les tefilines? Si. Ça manque pas de gens comme ça. Ça, c'est la raison pour laquelle, on va dire, primaire, il y a une grande peur que ce soit un mouvement dangereux. La deuxième raison de cette opposition extraordinaire...
Vous pouvez juste rappeler, parce que moi je connais pas bien la Chassidoute, Gaon de Vilna, etc. C'était quoi l'opposition? C'était quoi le...
Il y a un homme qui s'est levé, un grand homme qui s'est levé, il y a environ 280 ans, il s'appelait Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et il a fondé un mouvement où on enseignait la mystique juive de façon diluée au peuple, en mettant plus d'accent sur la prière et aussi en mettant une sorte d'intermédiaire entre nous et Dieu qui est le tzaddik. Tu es un grand tzaddik, tu t'accroches à lui et par son intermédiaire, tu peux te rapprocher plus de Dieu. Donc il y avait des cours. Il y avait le Baal Shem Tov, après il y a eu des élèves, les élèves, chacun, ils ont ouvert, il y a eu plusieurs cours de chassidoute qui existent jusqu'à aujourd'hui. Alors celui du Baal Shem Tov n'existe plus, mais tu as Lubavitch. Alors ça vient le rabbi, le Evian rabbi, c'était... Voilà, Shneur Zalman de l'IADI. Et c'est un grand sadique, assurément, et il avait une cour comme ça, etc. Et les gens suivent. Tu as Belz, tu as Vishnitz, tu as Gour, tu as Karlin. Alors tous, ils ont un rébé, ce qu'il s'appelle, qui est censé être un grand homme. Des fois, oui, puis des fois, au bout d'un moment, parce que c'est héréditaire. Des fois, tu en as comme ça qui s'éteignent parce que le rébé, il n'en vaut plus la peine. Où il n'y en a plus, comme c'est le cas de Lubavitch, où il n'y a plus de descendants. Et ça s'éteint lentement. Ou bien, ça continue. Il y a même des nouvelles. Il y a un qui s'est ouvert, qui s'appelle, il s'est fait un bonjour rébé, un rébé de Boston. Boston, c'est le seul. Ils sont déménagés de... Ça y est, la chasse de Boston aujourd'hui. Ils ont...
C'est un vrai truc, quoi.
Ah ouais. Ah, c'est pas pire que Lubavitch. Pour Lubavitch, c'est une connotation polonaise, ça va. Et Boston, raison anglaise. Pourquoi pas? Alors maintenant, j'explique un peu, essayer d'expliquer un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé. Donc, dans le monde, on va dire comme ça, à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait peut-être un des plus grands rabbins des 4-5 derniers siècles, le Gaon de Vilna. D'accord? Le rabbi Eliyahu de Vilna, qu'on appelle dans les chéotes le Gaon, le génie tout simplement. Parce qu'il est vraiment difficilement humain, quoi. C'est pas du domaine de la normalité, un génie pareil. Son élève, Rabbi Chaim de Volozhin, un jour, lui toujours le jour de Shabbat, il parlait en hébreu. Toutes les semaines, il parlait en yiddish. Le jour de Shabbat, son élève, Rabbi Chaim de Volozhin, il parlait en hébreu. Un jour, ses élèves, il a demandé, et très souvent le rabbi de Chaim, il parlait de son rave, le Gaon de Vilna. Alors, il a écrit une introduction à une explication du Gaon de Vilna sur Sifra Tzniuta. Sifra Tzniuta, c'est le livre de la Tzniut, de la pudeur, d'accord. C'est un livre de Kabbalah, très très vieux, presque incompréhensible, et le Gaon de Vilna fait une explication dessus. Alors, dans les éditions certaines éditions de Nefesh HaRaim, du livre de Rabbi Chaim Volojine, il y a l'introduction qu'a écrit le Rabbi Chaim Volojine, l'élève du Gaon de Vilna, sur ce livre-là. Il n'y a pas le livre, mais là, il y a l'introduction. Et là-bas, il parle du Gaon, qui c'est le Gaon de Vilna. Il dit, le Gaon de Vilna, à l'âge de 3 ans, savait toute la Torah par cœur. La Torah écrite.
Comment
c'est? Hein? Bah, c'est pas un homme normal. Pas normal. Dès l'âge de 40 ans, il a pu étudier que le Pshat, que Kabbalah. Il écrit dans un de ses, je crois, dans ce Perusha, Sifra Tzniuta, il dit, ce explication, je la tiens de Yaakov Avinu. Il étudiait avec Yaakov Avinu. Il dormait une demi-heure, étudiait 5h30. Étudiait une demi-heure, 5h, toute sa vie comme ça. Une demi-heure de... Et que personne commence à faire ça ici, d'accord? Une demi-heure de sommeil et 5h30 d'études. Et chaque fois qu'il dormait, il montait dans Metivta Derekia, il montait dans la Yeshiva du ciel, étudiait là-bas. Un jour, il a envoyé à Rabbi Chaim Volojine, son ami lui dit, attention, tu es en train de monter en Torah, bientôt vont se dévoiler à toi des ministres de la Torah, des anges qui voudront t'enseigner la Torah. Refuse. Parce qu'il faut par nous-mêmes arriver. De plus, nous habitons l'étranger, donc des fois, il raconte même des mensonges. Un type qui sait sur un autre que bientôt les ministres de la Torah vont se dévoiler à lui. Bon, c'était pas un être humain normal, c'était rien à voir. Rien à voir. Lui, il s'appelle, il est dans le clan normaux des juifs qu'il y avait avant que commence la Chassidout. On appelle ça les Mitnagdim. Mitnagdim, ça veut dire ceux qui étaient contre. Et chez eux, dans le monde que nous, dont nous faisons partie aussi, nous, le monde Sfarad, dont on est plus proche de Mitnagdim, il y a deux choses très claires. Il y a l'étude du Pshat, du sens clair, de la Torah, la Gemara, les Poskim, et la Kabbalah. On ne met pas de entre. Parce que où tu es dans la Kabbalah, dans le vrai secret, ou tu es dans les choses qui sont pas le secret. La Chassidoute a voulu que le peuple aussi puisse accéder à des notions de Kabbalah. Les Tzadikim ont dit non, c'est dangereux. Quand tu commences à rentrer des histoires de Kabbalah dans la tête des gens, et qu'ils ne sont pas encore mûrs, ils n'ont pas encore rempli leur estomac de Gemara, ils deviennent fous. Comme on voit beaucoup de gens autour de nous qui sont comme ça. Ils ne sont pas construits, ils commencent à équilibrer des choses fausses. Ils sont à côté de la plaque, c'est-à-dire complètement tordus. Il y a eu un danger que, si on fait cela, beaucoup de gens du peuple juif vont comprendre les choses mal et être très mal tournés. Néanmoins, Dieu a décidé que ces deux mouvements seraient, ces deux mouvements existent, ils sont des mouvements absolument purement juifs. Il est vrai qu'il y a encore aujourd'hui une certaine, ces deux façons d'éduquer, et il est vrai, nous, on fait plus partie du côté des Mitnagdim, d'accord. Les Monsfarad n'ont pas connu cela, chez nous, c'est très clair. Ou tu as vu la Kabbalah, la vraie Kabbalah, pourquoi prendre des substituts, du dilué. Ou tu étudies le Pshat. Si tu es fait pour la Kabbalah, rentre complètement. Pourquoi faire du moitié-moitié? Le problème est que il y a certains mouvements de Chassidut aujourd'hui qui vont récupérer une Chassidut de bon marché et justement faire croire à des gens des tas de choses qui sont complètement fausses et tu vois que les gens, ils tournent mal. Tordu de première.
Il n'y a pas plus que chez l'Italie, comme on dit.
Des tordus, il y a partout. Mais quand il y a une méthode éducative qui te pousse à être tordu, c'est beaucoup plus grave. Quand moi, j'essaie de limiter la casse, de faire bien, maintenant, j'ai une classe avec des gens qui sont bien, des gens qui sont pas bien. Les pas bien, j'essaie de réparer. Mais quand maintenant, le prof, il éduque, il donne de l'eau au moulin du type qui va tordu, c'est beaucoup plus dangereux. Je vous donne un exemple. T'as un type qui s'est levé il y a quelques années, qui a prétendu que Rabbi Nachman de Brassa lui a envoyé un petit pétek, un petit billet qui est tombé du ciel, dans lequel il lui a dit, je te conseille de dire cette phrase-là, Nachman, Meuman. Ok. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Je ne vais pas rentrer dans le débat. J'ai vu de mes yeux des gens, 3-4 heures de suite, tourner en rond, en disant « Nar, Nahman, Mi'uman, Nar, 4 heures comme ça. Je me dis, bah, peut-être c'est bien, c'est une grande mitzvah. Preuve, on est qu'il y a un billet qui tombe du ciel. Je dis, c'est tordu. On va expliquer à quelqu'un qui est tordu que c'est tordu. tant que quelqu'un. Quand tu me poses la question pourquoi, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Tu comprends, c'est des choses qui sont. Quand quelqu'un. Allez,
excusez-moi, si c'était Gunn de Villain qui l'avait dit, vous n'auriez pas dit la même chose.
Le Gunn de Villain n'aurait pas dit ça. Et s'il avait dit, on aurait dit la même chose. Aussi grand qu'il soit.
Il aurait enseigné dit Narman en rond comme.
Le Gunn de Villain serait nous dit, tu dis quatre, tu Narman comme ça, on l'aurait envoyé se faire voir. Hein? Parce que il y a une chose qui est plus haute que tout dans la Torah. La Torah elle-même. Svara, quand tu as un truc qui est tordu. Un truc qui est tordu, ça ne peut pas. Non, Chas et Shalom. Chas et Shalom. Rabbi Nachman de Breslav était un super grand tzaddik qui en a peu de toute l'histoire juive aussi grand que lui. D'où tout le problème. Quand des gens ne sont pas du niveau et commencent à rentrer là-dedans et prennent les choses pas comme il faut, ils font des choses qui sont absurdement bêtes. Tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un qui a un minimum de jugeote comprend qu'il est beaucoup plus intelligent de me construire en étudiant la Torah. C'est ça la parole de Dieu. En étudiant la Torah, savoir qui je suis, qu'est-ce que c'est que la parole, qu'est-ce que Dieu veut, plus que de tourner une mitzvah qui est marquée nulle part, et de croire que ça va faire quelque chose.
Et c'est pas plus bizarre que d'avoir la kavana à chaque fois qu'on dit Baruch Ata Hashem.
Mais qui a ordonné Baruch Ata Hashem?
Non, on se voit aussi des.
Qui a dit Baruch Ata Hashem à Adonai Kol? C'est la Torah qui dit. C'est pas un billet qui est tombé du ciel.
Toutes les kavanot qu'on a dans les CDR où il faut penser à telle chose à travers chaque mot. C'est aussi dans le même genre d'idée.
Pas du
on
tout.
Se répète à chaque fois qu'il y a le même mot, une sorte de mantra.
Mais le Baruch Ata Hashem a été ordonné par la Gemara. C'est la Torah qui le dit.
Et pas d'avoir la Kavana.
La Kavana aussi. La Kavana, c'est Rabbeinu Ha'ari. C'est partie de ce qui s'appelle la Torah transmise depuis Moshe Rabbeinu. C'est pas une invention. Il n'y a pas d'invention. Hein?
C'est la Kavana.
Ok, maintenant, si quelqu'un me dit, tu regardes. Vu que la Kabbalah dit maintenant que c'est bien de penser au nom de Dieu, je suis toute la journée comme ça, je regarde le nom de Dieu. Je dirais tordu, mais c'est marqué dans le livre. Tordu, tordu. Quand quelqu'un n'est pas construit, il prend un truc de la Torah, il commence à faire avec ça des tas de trucs, c'est tordu. Excuse-moi. Il y a des gens comme ça. On me raconte à Ponovitch, j'avais un type, je me dis, toute la journée comme ça, qu'est-ce que tu fais? Je pense à Dieu. Hein? Ma boule. Il faut penser à Dieu. C'est-à-dire, de temps en temps, qui quoi, mais... Dieu t'a transmis une Torah, à quoi elle sert? À la sortie, quand on fait la Kriyat Torah, maintenant, la chanter, c'est ça à quoi ça? Ou à l'étudier? Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha Bechol, tu aimeras Dieu, Vayu Advarim, El Hashem Elokecha Mitzvecha, Yom, Al Levavecha, ces paroles que je te donne seront sur ton cœur, Ve'dibar Tamam, tu en parleras, Ve'shedan Tam, Levanecha, tu les enseigneras à tes enfants. Parler, enseigner Torah. C'est marqué non seulement dans la Torah, donc je dois étudier la Torah. Après, je dois prier. Maintenant, je dois aller de filine. Ça, c'est des trucs qui sont marqués noir sur blanc. Nanar, c'est marqué où? Admettons que c'est peut-être bien. Il y a des trucs bien. Rabbi Nachman, il a dévoilé que c'est bien de dire Tikkun HaKlali pour Zera le Batala. Très bien. C'est un grand rabbin. On va dire Tikkun HaKlali. 10 versets, 10 chapitres de Tehilim. Tehilim du roi David, c'est déjà pas à part. Ok, c'est bien. Mais quelqu'un qui va commencer à passer toute la journée à faire ça. Tikkun HaKlali. C'est marqué Tikkun, réparation, Klali, général. Ben je répare tout. Je fais Tikkun HaKlali, je fais 100 fois par jour. On dira tordu. Rabbi Nachman de Breslav, ça veut dire que c'est bien de faire Hidbo des doutes. Allez parler à Dieu.
À Dieu?
Ouais.
Oui, on
ouais, tu parles à Dieu. C'est très bien, très bien. Ouais. C'est bien d'aller tout seul. Alors tu as des gens, tordus, qui, sans rien dire, ils ont un père de famille avec 5-6 enfants, ils quittent la maison sans rien dire à personne, ils partent 3-4 jours, ils partent dans la forêt. Sa femme rentre à la maison, il n'y a personne. Et tu peux l'entendre ici dans la forêt, il hurle comme c'est dangereux, tu vois, t'écoutes un truc, il hurle, et... ça va, bahilak. Restons calmes. Je dis pas que c'est mal de se mettre sur un endroit et parler à Dieu, je suis d'accord. C'est excellent, il faut le faire. Et tous les grands livres de Moussard, des Mitnagdim, disent qu'il faut le faire. Mais être les pieds sur terre. Quand quelqu'un, sa tête, elle monte en haut, mais les pieds ne restent plus sur terre, alors ça devient un acrobate. C'est pour cela, à cause de ce type de danger, que le Gunn de Vilna a été très contre. Maintenant, quand quelqu'un, il rentre dans la chassidoute, et il fait partie du monde chassidique, mais il est construit, parce que j'ai un ami, qui est Rabbi Nachman, il est chassid de Breslav. Mais c'était un Tamid Chacham. C'était un des plus grands de Ponovitch. Il a publié une revue de Rabbi Nachman de Breslav qui parle de l'importance des deux Gemara. Sans ça, on peut arriver à rien. Pourquoi il a fait ça? Parce que ça lui fait mal que les gens tordent la pensée de Rabbi Nachman de Breslav à des choses complètement absurdes. Alors il y a des gens bien, peut-être des gens tordus, comme partout. Mais là, c'est des choses qui sont exaltantes, Rabbi Nachman. Alors ça prend les gens, ils vont et s'exaltent dans des bêtises. C'est exaltant de croire que tu fais quelque chose alors que tu fais rien. C'est facile. Vas-y, prends une Gemara et casse-toi la tête. Ah! C'est plus facile d'échanger nar nar nar. C'est plus facile. Prends des trucs qui te font rêver. Vas-y, casse-toi les dents, prends une Gemara, vois maintenant, construis-toi. Construire, c'est prendre une brique, tac, c'est dur. Une autre, et paf, et la mettre, c'est pas bien, mais il faut... Ça, c'est la construction. Rabbi, tous les grands de la chassidoute ont dit, tu peux arriver à rien, rien, mais mets-le en grand, si tu n'as pas une construction en Torah dans le plat. Ça, c'est dans le sens clair, la Gemara. Rachid Tosfot, sans ça, tu ne sers à rien. Pourquoi tous ceux qui ne sont pas fichus d'étudier, ils fuient là-bas? Parce qu'ils ne veulent pas affronter et grandir. Alors ils préfèrent imaginer qu'ils grandissent.
Quelles sont vos sources pour dire ça?
Hein?
Quelles sont vos sources?
Tous les grands.
Tous. Qui n'arrivent pas à étudier, ils se barrent
en Chassidoute. Non. Il y a des gens très très bien à Chassidoute qui sont des gens grands et bien et construits, excellents, fantastiques, les plus grands scientifiques du monde. Il y a des gens très grands dans le Mitnagdim aussi. Je dis simplement, vu que la Chassidoute peut être plus... Dans le monde des Mitnagdim, tu n'as pas le choix. C'est Gemara et c'est ça. Dans la Chassidoute, si quelqu'un n'est pas un grand Gemara, il peut croire en se trompant que s'il va maintenant commencer à lire des livres de Chassidoute et commencer à rêvasser, ce que j'appelle, d'accord, il fait quelque chose. Je dis attention. Tous les grands de la Chassidoute eux-mêmes diront que c'est une erreur. Il n'y a pas un grand dans ce monde, un grand dans ce monde qui dira, t'arrives pas à tuer la Gemara, c'est pas pour toi, vas-y, fais la Chassidoute. Il n'y a que les tordus qui disent ça. Tous les grands diront, tu vas te construire en Gemara, tu vas te construire. De qui on parle? Quelqu'un qui a du temps d'étudier, quelqu'un qui n'a pas le temps d'étudier. Il a une heure par jour. Ça ne sert à rien de prendre, essayer à déchiffrer une Gemara. C'est beaucoup trop gros, c'est vouloir avaler un jumbo alors que tu as une petite bouche comme ça. Fais de la halakha, fais du moussard, fais du chumash, des choses comme ça. Fais de la chassidoute aussi, pas de problème. Quelqu'un qui veut se construire. Construction. Tu ne peux pas arriver au haut du gratte-ciel et voir le beau panorama romantique, chassidiche de Kabbalah si tu n'as pas construit tous les étages. Tous les grands au monde seront d'accord là-dessus. Tous les grands de Chassidoute étaient des géants en Gemara. On dit que lorsque Gaon de Vilna a rencontré le Baal Shem Tov, il a cru que tout le monde croyait que le Baal Shem Tov était très grand en Kabbalah et le Gaon de Vilna était très grand en Gemara. Et bien le Gaon de Vilna était surpris de voir que le Rabbi Shemuel, le Baal Shem Tov était plus grand que lui en Gemara et le Baal Shem Tov était surpris de voir que le Gaon de Vilna était plus grand que lui en Kabbalah. Ça veut dire que pour être grand, il faut un grand, il a les deux. Mais tu peux arriver à la Kabbalah sans passer par les choses normales, la construction, d'abord sur Terre, après on monte.
Il n'y a pas une évidence que quand même le mouvement de Chassidoute, il a fait revenir beaucoup de gens à la Tchouba, et que les deux, en fin de compte, ils devraient se donner la main. On fait revenir à la Tchouba avec la Chassidoute, et après on construit avec les...
Il est certain que ces deux mouvements sont deux mouvements purs et grands du peuple juif.
Ça n'a pas envie de faire Tchouba juste la Guémara aujourd'hui, c'est
tout dépend qui.
On fait tu vois, en rêvasser.
Tout dépend qui. Tout dépend qui. Prends des gens et fais les danser des années. Dites au bout de moi, ok, ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire?
La chassidoute,
c'est ce que tu me dis maintenant, on appelle ça pensée juive. D'accord? Tu ne peux pas rentrer de trou de la Gemara. Tu cherches Dieu. Viens, allez, prends maintenant Bava Batra. Tu as deux voisins qui se tapent dessus. Où on met le mur. Je suis d'accord avec toi. Lui, il veut maintenant, il cherche Dieu. Alors parlons de Dieu. Mais tu as besoin d'arriver à la Chassidoute. Chassidoute, c'est prendre la Kabbalah. D'une certaine façon, tu as la façon qui est haute, qui est écrite dans les livres de pensée juive. Et tu en as beaucoup. Ceux qui veulent en Chassidoute, il n'y a pas de problème. Le danger est quand des fois on reste là-dedans. C'est tout ce que je dis. Les voies pour arriver à la Torah, toutes les voies sont bonnes du moment que tu arrives à bon port. Si tu t'égares en route, là est le danger.
Pourquoi pas le Shem Tov a décidé d'un coup comme ça de changer de direction?
C'est que tu as voulu comme ça, qui est une autre option.
Raison, lui, c'était pas justement pour essayer de...
Si oui, je ne connais pas la raison. Ça, ce sont déjà les raisons de Dieu. Baruch Adonai, l'olam amen.